Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Poète de l'ordinaire, chantre de l'absurde, martien au cœur tendre, immense conteur du quotidien, gardien de mémoire, intarissable de parlotte, généreux taquin, cultivé, attentif, disponible, reliant, discret, subtil, drôle. Il faudrait encore tellement de mots pour envelopper la personnalité singulière et attachante de Claude Delclos. Gardien héritier pendant 26 ans des grands magasins de Dieu le Fit, cet antre dédié à la nostalgie. Une institution, un incontournable, une perle rare, refuge pour les rêveurs, pour le pas de côté, le temps suspendu. Les grands magasins, un grand foutoir, un tout possible. À Dieu le Fit, on pensait Claude Delclos immortel. Il s'est envolé sans prévenir. Le 9 mai dernier. En 2018, le réalisateur Patrice Lecomte a décidé de se pencher sur les boutiques obscures, ces commerces atypiques de province qui résistent et qui sont rarement mis en lumière. Les 21 et 22 février 2018, il tournait ainsi dans les grands magasins, au centre de Dieu le Fit, caméra en main, auprès de Claude Delclos.
Bonjour, je m'appelle Claude Delclos et je tiens ce magasin depuis l'année 1998. Le 19 février, j'ai eu 66 ans, ça fait une vingtaine d'années. Donc si on enlève 20, effectivement à 66, ça fait 46 ans. Voilà, donc j'avais 46 ans quand j'ai repris le magasin.
Quand il a repris le magasin, avec comme seul véritable objectif, vendre de tout. Des porte-clés, des pantoufles, des coccinelles, des bonnets, des poupées, des colliers, des anneaux en plastique, des jupes, des montres, des cravates, des tire-bouchons et des casse-noix, une libellule.
Mais pas de raton laveur. En fait, moi, je suis le successeur de mon père, Edmond, et qui est décédé en 1997. Et donc, étant déjà employé de cette entreprise, et cette entreprise ayant un certain nombre de personnes, je me suis senti pratiquement dans l'obligation de continuer son activité professionnelle. En fait, je ne voulais pas trop que ça change dans son objectif principal, qui était un magasin où on trouve de tout, et puis dans son originalité, qui devenait de plus en plus atypique. Nous avons des articles qui existent même depuis 30, 40 ou 50 ans, oui, qui ont peut-être peu d'intérêt pour beaucoup de personnes, mais beaucoup pour peu de personnes, et qui viennent des fois de loin en chercher. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, des jeunes de Paris voulaient monter une boutique des années 60-70. Non seulement ils ont pris des articles à la consommation qui existait à cette époque, mais également des étagères, des présentoirs, des publicités de cette époque.
Du bolduc, des foulards, des dentelles, des chemises, des nains, des punaises, des fermetures éclairs, des vernis à ongles, des papiers cadeaux, des cordes à sauter, des tissus, des dinosaures.
Mais pas de raton laveur.
Une triperie, deux pierres, trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur, une madame, un tel, un citron, un pain, un grand rayon de soleil, une lame de fond, un pantalon, une porte avec son paillasson, un monsieur décoré de la Légion d'honneur, le raton laveur, un sculpteur qui sculpte des Napoléons, la fleur qu'on appelle souci. Deux amoureux sur un grand lit, un carnaval de Nice, une chaise, trois dindons, un ecclésiastique, un furoncle, une guêpe, un reflottant, une douzaine d'huîtres, une écurie de course, un fils indigne, deux pères dominicains, trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie, trois ou quatre oncles cypriens, le raton laveur. Une mater dolorosa, deux papagottes aux trois rossignols, deux paires de sabots, cinq dentistes, un homme du monde, une femme du monde, un couvercle de cabinet, deux petits suisses, un grand pardon, une vache, un samovar, une panne de bon sang, un muscle bien mis, un cerf-volant, un régime de bananes, une fourmi, une expédition coloniale, un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire, un bandage hernière, un vendredi soir, une chaisière, un œuf de poule, un vieux doigt la vieille, trois veuves de guerre, un François Ier, deux Nicolas II, trois Henri III, le raton laveur, un Père Noël, deux sœurs latines, trois dimensions, mille et une nuits, sept merveilles du monde, quatre points cardinaux, huit heures précises, douze apôtres, 45 ans de bons et loyaux services, deux ans de prison, six ou sept péchés capitaux, trois mousquetaires, 20 000 lieues sous les mers, 32 positions, 2000 ans avant Jésus-Christ, 5 gouttes après chaque repas, 40 minutes d'entracte, une seconde d'inattention, et naturellement le raton laveur.
Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets à cigarettes. Je me souviens du tac-tac. Je me souviens des foulards en soie de parachute. Je me souviens des Scooby-Doo. Je me souviens de dop-dop-dop, adopter le shampoing dop. Je me souviens de bébé cadom. Je me souviens de la mode des cravates en soie tricotée. Je me souviens que le mot « robot » est un mot tchèque inventé, je crois, par Karel Kapek. Je me souviens de la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. Je me souviens de la mode des Duffelcoat. Je me souviens du bonhomme en bois des galeries Barbès. Je me souviens des sacs Hermès avec leur tout petit cadenas. Je me souviens des programmes radio « Comme il vous plaira » présentés par Jean-Pierre Morfait et... Je me souviens du dentifrice émail diamant avec son toréador chantant. Je me souviens que mon oncle avait un appareil pour aiguiser les lames de rasoir. Je me souviens des plaques de mica ou de celluloïdes qu'on fixait sur le devant des capots, près du bouchon de radiateur, et qui empêchaient les moustiques et les pucerons de venir s'écraser sur le pare-brise. Je me souviens des publicités peintes sur les maisons. Je me souviens des billes en terre qui se cassaient en deux dès que le choc était un peu fort, et des agates et des gros calots de verre dans lesquels il y avait parfois des bulles. Je me souviens de fond dans la bouche et pas dans la main. Je me souviens des boîtes de coco. Je me souviens que je rêvais d'arriver au mécano numéro 6. Je me souviens de combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien noir et blanc. Je me souviens du yo-yo. Je me souviens du hula hop. Je me souviens des petits pétards enveloppés dans du papier qu'on appelait les bombes algériennes. Je me souviens du rouge à lèvres baisé, le rouge qui permet le baiser. Je me souviens des soldats de plomb, vraiment en plomb, et des soldats en terre. Je me souviens de j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, vache de ferme, ferme ta gueule. Georges Perec, je me souviens.
Et la visite continue, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Depuis les jouets remisés jusqu'à Noël prochain, jusqu'aux vêtements de travail, dont la fameuse chemise qui dure, inusable, et qui désespère Claude parce que, justement, elle est inusable.
Nous sommes ici dans la caverne d'Ali Baba. C'est un lieu, bon, au départ, c'est un contre-couloir assez sombre, un peu tristouné, que j'ai voulu égayer justement pour que ça devienne réellement une caverne avec des éclairages indirects, des choses comme ça. Et puis bon, pourquoi pas un petit décor amusant qui fait croire qu'on rentre dans un lieu un peu magique et qui puisse attirer évidemment les enfants. Bon, ben, un but commercial. En ce qui concerne les petites voitures de collection, où j'achète le kit entier de 12 voitures, où je ne peux pas, puisque je ne suis pas livré. En fait, ce sont des conditionnements obligatoires. Donc, où je prends la quantité minimale, c'est-à-dire une boîte de 12, ou rien.
Des soutiens-gorge, des tirelires, des gants, des brosses, des toiles cirées, des briquets, des lunettes, des chaussettes, des chapeaux, des balles de ping-pong, des ciseaux, des culottes rouges, des sorcières.
Mais pas de raton laveur. Je suis immergé dans un stock impressionnant et qui s'est constitué d'année en année, on va dire presque de décennie en décennie. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis dans le fond, si c'est pourquoi pas une faiblesse, on peut dire, de bonne gestion, c'est également une force d'attractivité, d'intérêt pour certains clients, des fois qui viennent de loin, qui ont plus la possibilité de trouver autant de stocks, de pouvoir avoir un choix aussi exhaustif. Et ça les amuse beaucoup de venir voir ici, de chercher, de trouver. Et puis bon, il y a une partie aussi nostalgique qui est liée à toutes les personnes qui ont travaillé ici, de l'époque de mes parents, de l'époque où les affaires marchaient plus.
Tout au long de l'année, beaucoup de promeneurs ou de touristes poussent la porte des grands magasins. Juste pour jeter un coup d'œil, parfois pour faire des photos. Mais Claude ne se gendarme pas pour autant, car il sait que lorsque l'on vient chez lui sans avoir quoi que ce soit à acheter, on finit toujours par dégoter un article inattendu, un truc ou un machin auquel on ne pensait pas. Et en fin de compte, les visiteurs, venus en badaud, repartent presque toujours avec quelque chose.
Je ne suis pas marié, ni sans enfant, ni rien. Je reste libre tous mes mouvements, si on peut dire, toutes mes pensées. Non, je suis très bien comme ça. Non, par contre, comme on était 6 enfants, moi, j'ai mon frère justement qui avait fait médecine, qui est décédé, mais on est encore 5, et je suis bien content de voir mes sœurs, mes frères, mes neveux, mes nièces, etc. C'est suffisamment important pour moi que d'avoir ma propre famille. Actuellement, c'est vrai que je suis dans ce magasin. Je me pose évidemment souvent quelle est la perspective, l'avenir de ce type d'activité, de mon activité que j'ai reprise. C'est une activité familiale. Je pense, j'aimerais, pourquoi pas, qu'un membre de ma famille, puisque je suis issu quand même d'une famille nombreuse, par exemple Vanessa, qui est ma nièce, donc une fille de mes sœurs, puisse reprendre si elle considère que cette activité est encore de l'avenir, qu'elle s'y trouve bien, que tout le contexte reste favorable et qu'elle puisse encore en vivre.
Les grands magasins, c'est épatant, on peut dire maintenant que le vrai Paris. Ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries.
C'est pas des séduits fous, font sur ma terre, paradis des enfants et de leurs pères.
Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, il y a des pantins, des robes sans satin. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, on trouve du fusain et du rouge raisin.
De la mercerie, de la mercerie. été détruit, de la papeterie, de la parfumerie, des paniers, je j'ouvrais tous les fonds de tout.
Attendez, je vais baisser peut-être un peu la radio parce que là, ça fait.
On a fait un peu concurrence, vous voyez, parce que là, on part de radio, alors ça, c'est. La
pourquoi
radio,
vous avez trois radios qui marchent en même temps?
Parce que, en fait, j'ai des publics différents. Et suivant les cas, j'aime bien les émissions, par exemple, de France Inter Culturelle, mais j'aime bien aussi d'autres radios où pratiquement. Il n'y a plus que de la musique pour faire, on va dire, une ambiance de fond et qui est complètement neutre et qui égaye un peu le magasin. Et puis également aussi, j'aime bien écouter Radio Soleil Montélimar, étant donné que c'est plein de petites interviews locaux de la région. Et ça m'intéresse beaucoup, se connaître un peu la sociologie, la psychologie locale. J'ai retrouvé le calendrier, justement, mes parents avaient acheté le magasin, disons, ils sont devenus propriétaires du fonds de commerce le 1er juillet. Et j'ai vu que déjà, ils avaient été sûrement démarchés par un marchand de calendriers. Il y a des calendriers déjà, mais peut-être sur un format différent, depuis fin qui annonçait l'année 47. Alors là, par exemple, si je lis ce qui est marqué sur ce calendrier, grand magasin des Clos, maison fondée en 1896 et reprise en 1946. Alors donc, on étale à peu près ce que nous faisons, c'est-à-dire la confection. Alors maintenant, c'est plus la confection, parce qu'effectivement, on a eu la confection. On a eu un atelier de coupe avec un tailleur, des couturières, etc. Confection, maintenant, c'est le prêt-à-porter. Sport, parce qu'on a toujours. Mon père était un sportif de football, tout ça. Puis la tradition, avant, ça marchait bien. On travaillait avec des grosses boîtes comme Adidas. Mais comme on ne fait pas assez de chiffre d'affaires, ils nous disent si vous n'achetez pas pour 4000 euros de marchandises chaque année, ben, on ne vient plus chez vous. Donc vous êtes rayé des clients. Comme nous, on ne peut pas débiter pour autant, ben, on est rayé. À ce niveau-là, après jouer, parce qu'effectivement, maintenant notre force est d'ailleurs plus le jouer que le reste. Le camping, parce que l'été, bon, c'est un créneau estival qui nous intéresse, mais bon, pour nous, malheureusement, qui s'affaiblit. Le tissu, parce que bon, ça fait référence à la confection, justement, d'autrefois. La mercerie, bonneterie, le cadeau, le souvenir, etc. Quand je regarde ma liste de fournisseurs français, elle s'étiole chaque année, elle diminue chaque année. C'est une paupérisation totale de la fabrication française, d'où la paupérisation des magasins comme nous qui cherchions à avoir le maximum de produits locaux. Pour faire travailler d'ailleurs les gens du coin qui ont un pouvoir d'achat, connaissant, si vous voulez, en plus les entreprises depuis très longtemps qui étaient souvent des entreprises familiales, qui permettaient d'avoir une confiance au niveau de la qualité qu'on n'a plus du tout. Maintenant, quand on regarde par exemple sur Internet ou d'autres, que tout le monde regarde, il regarde une photo, il ne sait pas d'où ça vient, comment ça vient. Même au niveau social et fiscal, on ne sait pas du tout qui c'est qui est derrière. Moi, je paye mes taxes, mes impôts, je reverse ma TVA, etc. Mais tous ces gens sur Internet, là, je comment ça marche? Je veux dire, est-ce que d'un côté, on a un discours, si vous voulez, en disant, oui, c'est formidable, grâce à Internet, tout va très bien, Madame la Marquise, et puis à côté de ça, on détruit encore un peu plus d'entreprises chaque jour. Alors moi par contre, je suis dépôt, effectivement, de produits qui sont par Internet, parce que je me suis dit, si en plus, On va envoyer les gens sur Montélimar ou Valence pour aller chercher en plus leur collier Internet, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je n'aurai plus aucun passage l'hiver ici au magasin. J'en suis à ce niveau-là. Je suis un peu dans une contradiction, si vous voulez, où je suis obligé de jouer la carte, si vous voulez, moderniste de l'informatique et d'Internet, sachant qu'à quelque part, ils cherchent à la fois, si vous voulez, à concurrencer les grandes surfaces, mais nous-mêmes, quoi.
Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne toute l'année, avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des vergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes. Je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Des poissons, des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des conscrits, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canaux, des crapauds, des capots, des capots, des tricards, des brocards, des canards, du brocard, des courants, des parents, des savants, des arpents, des melons, des teutons, des salons, des doulons, des barclés, des balais, des raclés, des navets, des tambours, des tutours, des contours et des tours, des soupirs, des fichirs, des désirs, des sourires, des prolons, des bourdons, des défronts, des croutons, des pervers, des léthers, des lasers et des misères, des tacos, des marmots, des tuyaux, des popos, des fichons, des torchons, des crayons et du savon, des savates, des tomates, des mille pattes, des cravates, des cuirs.
L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique toute simple avec au-dessus de la vitrine l'inscription « Épicerie » peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette tintait joyeusement « ding, ding » et Tomek se tenait devant vous, souriant dans son tablier gris d'épicier. C'était un garçon aux yeux rêveurs assez grands pour son âge. Il ne servirait à rien de faire le détail des articles que Tomek vendait dans son épicerie. Un livre entier n'y suffirait pas, alors qu'un seul mot convient pour le dire. Et ce mot, c'est justement « tout ». Tomek vendait « tout ». Entendons par là des choses utiles et raisonnables comme des tapettes à mouches et l'élixir contre-coup de l'abbé Perdrigon, mais aussi et bien sûr des objets indispensables comme des bouillottes en caoutchouc et des couteaux à ours. Comme Tomek vivait dans son magasin, ou plutôt dans l'arrière-boutique de son magasin, il ne fermait jamais. Il y avait bien une petite pancarte à l'entrée, mais elle était toujours tournée du même côté, celui qui indiquait « ouvert ». c'était pas pour autant un défilé continuel, non. Les gens du village étaient respectueux et se gardaient bien de déranger à toute heure. Ils savaient seulement qu'en cas de besoin urgent, Tomek les dépannerait avec gentillesse, même au milieu de la nuit. Il faut pas croire non plus que Tomek ne quittait jamais sa boutique, bien au contraire. Il lui arrivait d'aller se dégourdir les jambes ou même de s'absenter une demi-journée, mais dans ces cas-là, le magasin restait ouvert et les clients se servaient tout seuls. À son retour, Tomek trouvait un petit mot sur le comptoir. Pris un rouleau de ficelle à saucisson, lean, accompagné du règlement, ou bien pris mon tabac, paierai demain, Jack. Ainsi, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit, et ça aurait pu durer des années ou même des siècles sans qu'il arrivât rien de particulier, seulement, voilà, Tomek avait un secret. Oh, c'était rien de mal ni de tellement extraordinaire, hein. Ça lui était venu avec tant de lenteur qu'il ne s'était aperçu de rien. Exactement comme les cheveux qui poussent sans qu'on s'en rende compte, un beau jour ils sont trop longs, et voilà. Un beau jour donc, Tomek se retrouva avec cette pensée qu'avait poussée dans sa tête au lieu de pousser dessus, et qu'on pouvait résumer ainsi. Il s'ennuyait. Il avait envie de partir, de voir le monde. Malheureusement, on ne part pas comme ça quand on s'appelle Tomek et qu'on est responsable de l'unique épicerie du village, cette épicerie que son père avait tenue avant lui et son grand-père avant lui. Qu'auraient pensé les gens? Qu'il les abandonnait? Qu'il n'était pas bien avec eux? Qu'il ne se plaisait plus au village? En tout cas, ils n'auraient pas compris et ça les aurait rendus tristes. Or, Tomek ne supportait pas de faire de la peine à autrui. Il résolut donc de rester et de garder son secret pour lui. Il fallait être patient, l'ennui finirait bien par s'en aller. Hélas, ce fut tout le contraire qui arriva. Sans compter qu'un événement allait bientôt réduire à néant tous les efforts que Tomek faisait pour être raisonnable. C'était la fin de l'été. Un soir qu'il avait laissé la porte de sa boutique ouverte pour profiter de la fraîcheur de la nuit, il était occupé à faire ses comptes sur son grand cahier spécial à la lumière d'une lampe à huile. Il fut sauter, rêveur, son crayon à papier quand une voix claire le fit sursauter. « Est-ce que vous vendez des sucres d'orge ?» Il leva la tête et vit la plus jolie personne qu'on pût imaginer. C'était une jeune fille de 12 ans environ, brune, comme on peut l'être. Elle était entrée sans bruit, si bien qu'on aurait dit une apparition, et maintenant elle fixait Tomek de ses yeux noirs et tristes. « Est-ce que vous vendez des sucres d'orge ?» Alors Tomek fit deux choses en même temps. La première fut de répondre « Oui, je vends des sucres d'orge. » Et la seconde chose que fit Tomek, lui qui de toute sa vie ne s'était pas retourné trois fois sur une fille, ce fut de tomber instantanément, complètement et définitivement amoureux de ce petit brin de fille. Il prit un sucre d'orge dans un bocal et le lui tendit. Elle le cacha dans une poche de sa robe, mais elle semblait ne pas vouloir s'en aller. Elle restait là à regarder les rayons et les rangées de petits tiroirs qui occupaient un mur tout entier. « Qu'avez-vous dans tous ces petits tiroirs ?»« J'ai tout, » répondit Tomek. « Enfin, tout le nécessaire. » « Des élastiques à chapeau ? » ?»« Oui, bien sûr. » Tomek escalada son échelle et ouvrit un tiroir tout en haut. Voilà. Des cartes à jouer? Il redescendit, ouvrit un autre tiroir. Voilà. Et des images de kangourous? Tomek dut réfléchir quelques secondes, puis il se précipita vers un tiroir sur la gauche. Voilà. Cette fois, les yeux sombres de la jeune fille s'éclairèrent tout à fait. C'était si charmant que le cœur de Tomek se mit à faire des bonds dans sa poitrine. Et du sable du désert, du sable qui serait encore chaud. Tomek gravit encore une fois son échelle et prit dans un tiroir une petite fiole de sable orange. Il redescendit, fit couler le sable sur son cahier spécial pour que la jeune fille puisse le toucher. Elle le caressa avec le dos de la main. Il est tout chaud. Ainsi, vous avez tout dans votre magasin, vraiment tout, dit la jeune fille en levant les yeux vers lui. « Oui, enfin, tout le nécessaire. » Alors, dit la petite voix fragile et hésitante, mais soudain prise d'un fol espoir, sembla-t-il à Tomek. « Alors, vous aurez peut-être de l'eau de la rivière Gjar ?» Tomek ignorait ce qu'était cette eau. Il ignorait aussi où pouvait se trouver cette rivière. La jeune fille le vit bien. Une ombre passa dans ses yeux et elle répondit sans qu'il eût à le demander. « C'est l'eau qui empêche de mourir. Vous ne le saviez pas ?» Jean-Claude Mourleva, La rivière à l'envers.
Alors après, ce qui nous maintient, c'est notre curiosité, c'est-à-dire le fait qu'on est atypique et que, du coup, ce côté atypique amuse beaucoup le monde. On devient une curiosité. Ça me fait penser à certains films. Là, c'était, je sais plus où on voyait des trucs comiques. C'était avec Louis de Funès ou je sais plus lequel. À un moment donné, c'était la denrée, je sais pas quoi. Et à un moment donné, comme il reste tout seul dans son petit village, le martien qu'il a vu, quand même bien sympa, lui a dit, t'as qu'à tu viens avec nous, parce que de toute façon, le monde moderne va te bouffer, donc tout ce que tu as organisé et ce que tu as maintenu va disparaître. Donc il fait un choix de société, disparaître avec ce fameux, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, cet acteur de cinéma là.
Villeray.
Non mais, je veux dire, en 30 ou 40, 50 années, vous avez plein de lieux.
Vous lui ressemblez un peu
d'ailleurs. Oui, voilà, le Claude.
Plutôt le martien.
Le martien, voilà. Je suis un peu le martien, oui.
Pour cette émission, je suis allée chiper des extraits du documentaire de Patrice Lecomte, dédié au grand magasin, ainsi que dans des archives de Radiola. Un reportage réalisé par Carole Menduni en 2017. Bon, c'est vraiment des bribes. Il y aurait encore tellement à dire. On a sur Dieulfi quantité d'anecdotes, de souvenirs, de partages avec Claude Delclos, ce petit, grand homme aux atours de discrétion. Vous trouverez toutes les références aux musiques et extraits de cette émission sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour cette saison. Je remercie Marin Ducouédic pour la réalisation et nous, on se retrouve à la rentrée pour une prochaine émission sur les ondes de Radiola.